espacio de cielo, tú la finura, la niñez, la vida.
Aujourd'hui, je reçois une artiste qui ne cesse d'explorer le monde, son monde extérieur, à travers ses peintures et soins. Elle s'appelle Aude Olivier, elle vient de s'installer avec sa famille à Téminette et je vous propose de passer un moment avec elle pour apprendre à la connaître et pour comprendre ce qui l'anime au quotidien. Bonjour. Alors, quand est-ce que la peinture est apparue dans votre vie, tiens ?
La peinture. Je crois que depuis toute petite, en fait, je bidouille, j'expérimente. Depuis, je crois que ma première huile, je devais être au collège, peut-être en 6e ou en 5e. Et j'avais, c'était Marinette et la patte du chat, je crois. Et j'avais fait une grande toile. C'était la première huile. Et puis, j'avais fait un tableau aussi pour ma grand-mère qui avait finalement elle avait encadré et posé dans les toilettes. Et j'avais été un peu choquée des toilettes. Et en fait, durant toute sa vie, en fin de compte, c'était le meilleur endroit parce que tout le monde voyait mon premier tableau.
Exactement, on y passe tous les jours.
C'est ça.
Je ne sais pas combien de minutes dans la journée, mais c'est vrai qu'on y passe beaucoup de temps dans les toilettes.
Il aurait été dans sa chambre, personne n'aurait vu en fait. Il n'était appartenu qu'à ma grand-mère.
Et à quel moment on se dit, c'est ma vie, c'est ce que je veux faire, même professionnellement?
Ça a commencé tôt, je dirais, j'ai fait une quatrième et troisième avec un temps artistique décuplé. Donc au lieu d'une heure et demie, j'avais trois heures de musique et de dessin. J'étais toujours en train d'expérimenter plein de choses. Je me rappelle faire avec la cire de bougie, des petites sculptures. J'ai beaucoup exploré pas mal de champs au niveau artistique plus jeune. Et puis, je suis dans une famille qui est OK pour l'art et en même temps pas pour gagner sa vie.
Ah.
Donc du coup, ça a été un peu compliqué. On me disait, passe ton bac, on verra plus tard.
Passe ton bac d'abord, voilà. Fais quelque chose de plus sérieux, quoi.
Après la troisième, quand j'ai voulu aller vers les écoles, Boulle, Estienne, etc., sur Paris, mes parents m'ont dit, non, ce serait peut-être une voie de garage, donc va faire ton bac scientifique, on en reparle plus tard. Et donc, une fois mon bac scientifique en poche, eh bien, là, je leur ai dit, maintenant, c'est une école, quoi. C'est une école d'art. Donc là, j'ai intégré les ateliers de Sèvres à Paris. Un planning de 35 heures de cours de tout type sur le thème du dessin, du modelage, de la peinture. Moi, ça, c'était excellent. Et puis, il a quand même fallu, à la suite de ça, il y avait des concours. Et là, je n'avais pas les épaules, en fait, la confiance. Donc, ça n'a pas été une grande réussite. Et du coup, j'ai cherché un métier qui pouvait convenir à papa et maman, en fait.
Plus pour leur faire plaisir.
Que je pouvais gagner ma vie. Donc, j'ai fini cuisiniste. J'ai vendu des cuisines et des salles de bain. Je faisais des beaux dessins, des beaux croquis. Je vendais, tout le monde était ravi de mes services. Et puis au bout de 5 ans, ça tournait vite en rond, quoi. Je sentais bien que mon activité artistique n'était pas à son haut potentiel. Et donc du coup, j'ai eu des enfants et c'est ça qui m'a fait arrêter le métier en cours. Et puis pendant mon congé mater, je me suis mise en auto-entrepreneur. J'ai commencé des petits ateliers dans mon village. Puis un jour, j'ai quelqu'un qui me dit, on cherche une prof de dessin. Je dis, ouh, quoi? Je ne suis pas prof, attention. Puis en fin de compte, si, j'ai dit, on va faire une petite réunion, puis on verra si je vois des choses, en fait, si je peux vous apporter quelque chose. Et puis j'ai vu les réalisations, j'ai vu le manque de lumière, j'ai vu des problèmes de couleur, j'ai vu les choses plates. Et j'ai dit, bon, ok, allez, on y va, on part pour un an. Et j'avais 30 élèves sur plusieurs cours. Et puis, pendant 7 ans, j'ai enseigné dans cette association. Et puis, le Covid est arrivé.
Le fameux.
Et là, on avait un projet de partir vers plus de nature, parce que c'était donc la Seine-et-Marne. Mais c'était un projet pour dans 10 ans. Mais le Covid nous a mis un peu un coup de pied aux fesses. Et on a dit, c'est maintenant. Et l'idée était de créer des cours de la maison et de pouvoir être peut-être plus libre, de pouvoir, s'il y avait des gros événements comme ça, de dire, c'est OK pour moi, mais vous, oui ou non, et puis d'être beaucoup plus dans quelque chose de plus libre, en fait, mmh. avec beaucoup moins de contraintes. Et donc, nous sommes partis, on arrive dans le Lot que l'on ne connaît absolument pas. On avait des projets pour l'Auvergne, en fin de compte, notre cahier des charges ne s'est pas concrétisé par là-bas. Donc, on est redescendu, l'Aveyron, le Lot, et puis on est tombé dans cette maison, on a eu le coup de cœur.
Ouais.
Et donc là, ça fera 3 ans qu'on est ici et on a fait énormément de travaux et j'ai créé mon atelier. Donc il a fallu casser chambre, salle de bain, toilette pour créer le grand espace qui me permet en fait d'accueillir jusqu'à à peu près 6 élèves, je dirais, pour être confortable. Et puis, ben voilà, aujourd'hui, je lance
votre activité. Voilà. Alors moi, il y a plusieurs questions qui me viennent là. Déjà, c'est qu'est-ce que... parce qu'on est beaucoup à être venu s'installer dans ce département, ne pas être issu de ce département, mais vraiment avoir eu un coup de cœur pour ce département. Qu'est-ce qu'on recherche quand on part de la ville pour s'installer à la campagne? Et est-ce qu'on n'a pas aussi, quelque part, une vision d'une utopie, quelque chose qui est magnifié par rapport à une vision de la ville ou...
Je sais pas. Nous, on était de plus de nature, donc plus de forêt, les arbres. On cherchait aussi la roche. On trouvait qu'on avait des sensations, en fait, où on se sentait bien quand on était proche d'une roche, d'une montagne, de choses comme ça. D'arbres, donc ça, les arbres, les forêts, et puis l'eau. L'eau est arrivée à un moment donné où, dans nos recherches, on a dit oh, « Mais là, en fait, t'as vu, moi, je me sentais bien mieux. Ben, regarde, il y a un cours d'eau, là, qui passe. » Et puis, voilà, ça a été une découverte. Donc, nous, c'est vraiment la nature. Et en fin de compte, l'utopie, elle est pas là-dessus, parce que c'est réel. C'est réel et concret. Par contre, de dire on plaque tout et on y va et on va se challenger, là c'est autre chose. Et ouais. Là c'est plutôt une fois qu'on y est et de le vivre clairement quoi. Donc oui, c'est pas du tout la ville, il y a moins de gens, donc le travail. Nous on est tous les deux à travailler à la maison et le travail il est différent, ça c'est certain. Maintenant,
le rapport au temps peut-être est différent aussi.
Ah oui, il n'y a plus de temps. Nous, aujourd'hui, on n'a plus de montre, on n'a plus d'heure, on n'a plus de temps. Je veux dire, le temps passe, c'est cool, mais on n'est plus aussi rythmé par le temps, en fait. Donc ça, c'est très confortable pour nous, ça, d'avoir ralenti quelque part.
Ouais.
Et de s'être approché réellement à l'essence de ce qu'on voulait ou de ce qu'on souhaite, et de pouvoir aussi... osciller et vaciller, aller vers ce vers quoi on tend, en fait. Donc, nous, on est ravis. Maintenant, on ressent quand même qu'il faut avoir de la foi, de la persévérance pour monter, en fait, son entreprise et son business, en fin de compte, et de pas être trop gourmand.
Et oui, tout à fait. Et il y a cette notion aussi de transmission qui est là depuis un moment chez vous, puisque... Ouais. Voilà, vous avez enseigné et il y a ce besoin de transmettre.
Ah ouais, complètement. J'ai un côté pédagogue très fort et ce besoin de transmettre ce que je sais et de faire des expériences. En fait, moi, toute ma vie n'a été que expérience en fin de compte et c'est faire l'expérience... d'un médium, faire l'expérience d'un papier, faire l'expérience de 2 techniques qu'on n'a pas l'habitude de mettre ensemble. Pourquoi pas d'un seul coup intégrer de la bougie alors que c'est pas du tout ce qui est attendu. Mais voilà, c'est ce qui vient en fait, ce qu'on peut saisir maintenant. Et du coup, dans ma pédagogie, on va dire que quand j'ai commencé l'enseignement, je savais pas trop où j'allais. Et on va dire que j'étais bien rythmée, il y avait une belle structure, etc. Et ça m'a permis de devenir, en fin de compte, prof ou pédagogue. Et à l'époque, en fin de compte, je décidais un thème, un choix, une perspective quelconque, et en fait tout le monde faisait la même chose. Et aujourd'hui, fort de cette expérience, en fin de compte, aujourd'hui dans mon atelier, je peux accueillir jusqu'à 6 personnes et proposer un accompagnement personnalisé et d'être beaucoup plus enclin justement à cette expérience. Mmh. Et de voir en fin de compte Pierre-Paul ou Jacques où ils veulent aller en fin de compte. Mmh. Et d'être au plus clair. Après, je ressens aussi par l'expérience que quand on fait faire quelque chose, par exemple si c'est une nature morte avec un pot de fleurs, ça va plaire à quelques-uns, puis il y en aura d'autres non. Et du coup, moi, ça m'embêtait, en fait, d'en perdre quelques-uns parce que le sujet n'était pas intéressant. Et donc, du coup, aujourd'hui, de cette expérience, je peux proposer, en fait, de l'individuel, enfin, du collectif.
Du collectif, mais individualisé.
Individualisé.
Alors, moi, je vais vous en proposer une d'expérience aujourd'hui.
Oui.
si vous aviez un cours de dessin à donner, mais de manière radiophonique.
Waouh! Yes!
Vous compenseriez comment?
Eh bien, par des consignes. En fait, je pense que je ferais pareil. Je pense que je ferais pareil. Moi, je parle d'un médium. Et puis, je vais aller expliquer trois façons de le mettre en place. Donc, du coup, au niveau radio... la complexité, c'est que les personnes ne pourraient peut-être pas voir, mais par exemple, si je dis on fait un cours sur le fusain, bien la première expérience, ce serait de tenir ce morceau de fusain et de dire que je vais le tenir comme un crayon. Et donc, par des idées de pression, par des idées de très rapprochées ou plus éloignées, on pourrait obtenir des nuances, en fin de compte, de gris à noir. Et puis ça, ce serait l'expérience numéro 1. Et on ne mettrait pas du tout les doigts, on cherche vraiment que le crayon. Puis l'expérience numéro 2, ce serait de dire qu'on va pouvoir mettre les doigts. Donc on va mettre ce fusain sur le papier et on va créer des dégradés de gris. Et le troisième, ce serait de prendre le fusain, de noircir une feuille et puis de travailler le retrait, en fin de compte, avec les doigts, le tissu, des gommes... voilà, toutes sortes de choses qu'on peut avoir sous la main. Et puis, de faire des expériences avec ces trois techniques-là. Donc, en fait, au niveau radiophonique, je pense que ça pourrait le faire aussi.
Ça pourrait. En tout cas, ça pourrait.
Tu m'ailloua vacío de cielo, tu la finura, la niñez. La vida, amor, amor mío, niño, amor. Óyeme, acaríciame con lo que busques y con lo encontrado. Óyeme, acaríciame, acaríciame. Belleza yo te la doy, suave en tu enorme tristeza, suave en tu enorme tristeza. No lograré más que un recuerdo de que tú pasaste por mi vida, dejando joyas que no recogeré sino cuando te hayas ido. Óyeme, acaríciame con lo que busques y con lo encontrado. Óyeme, acaríciame, acaríciame. Amor mío, niño, amor, io t'entrego mio universo, eres tu che amo, te amo con todos los amores, tu la finura, la niñez, la vida, amor, amor mio niño, amor. Eres tú a quien amo hoy, te amo con todos los amores, tú la finura, la niñez, la vida, amor, amor mío, niño, amor. Óyeme, acaríciame, con lo que buscas y con lo encontrado. Óyeme, acaríciame, acaríciame.
Donc je sais que donc, ce que vous me disiez, c'est que vous accueillez des personnes chez vous et puis vous pratiquez aussi de l'art-thérapie. Alors j'aimerais bien que vous m'expliquiez un petit peu plus en quoi ça consiste.
Alors, pour moi, c'est un terme. Je ne suis pas art-thérapeute, je n'ai pas été formée dans l'art-thérapie. Par contre, j'ai fait, moi, une formation de communication non-violente. J'ai fait mes 3 modules, puis j'ai fait un cycle de guérison des blessures pendant 2 ans. Et j'ai travaillé beaucoup aussi avec des... Alors c'est une technique qui s'appelle l'IFS, Internal Family System, qui est du docteur Richard Schwartz, et qui parle de nos parties intérieures, en fait. Et que c'est comme si on avait en fait une scène devant nous, et on a des parties qu'on met en avant, et puis d'autres qu'on éteint. Et donc, moi, de ce bagage, j'ai envie de dire, ou cet outil, je vais communiquer avec quelqu'un et on va aller rencontrer une problématique. On peut aller faire parler en fait des parties qui se taisent d'habitude ou qu'on va mettre un peu plus au devant de la scène. Et là, en fin de compte, moi, je suis que le catalyseur de ce qui va sortir en fin de compte de la personne et je vais juste accompagner et donner en fin de compte peut-être donc l'idée de... soit du papier ou d'une création, en fin de compte, de créer quelque chose avec le thème qui va être sorti, en fin de compte. Et par de là, en fait, la personne ne sait absolument pas ce qu'elle va faire, hein, mais en fait, elle va déposer des choses. Et puis, rien que ça, en fin de compte, ça a déjà un effet libérateur. Ouais. J'ai pas mal de gens qui sont thérapeutes après autour de moi qui peuvent aussi accompagner et avoir une lecture après plus approfondie. Mais déjà, nous, rien que le one-one qu'on peut être là, il va y avoir des révélations en fin de compte. Il y a des fois, on est dans la création puis on voit pas. Et en fin de compte, après, on prend un temps de pause. Et là, on peut avoir des petites questions. Enfin, moi, je peux avoir des petites questions. Et en fin de compte, ça amène à la discussion. Et en fin de compte, à des révélations aussi. Oui. Et du coup, ça fait du bien, en fin de compte. Mais c'est l'art-thérapie. Je pense que même dans mes cours, enfin, qui ne sont pas intitulés art-thérapie, vont avoir quand même un côté libérateur aussi.
Un effet libérateur.
Un effet aussi de moment où qu'on s'octroie pour soi et où on oublie tout, en fait, où tous les problèmes partent là. Et c'est un moment pour soi où à un moment on est bien, en fin de compte. Donc,
est-ce qu'on est plus... Est-ce que c'est plus facile ou est-ce que c'est plus... comment dire, libérateur de dessiner avec la musique ou du silence. Dans quelle atmosphère on se plonge quand on dessine ?
Eh ben, moi, je dis que ça dépend de chacun, de nous. Y a des gens qui peuvent arriver avec leur casque, en fin de compte. Et une fois que moi, j'ai donné les consignes, eh ben, ils sont avec leur musique parce que eux, c'est vraiment quelque chose qui est profond, qui les emmène, qui les emporte en fait, hein, dans ce processus créatif, et donc c'est tout à fait ok pour moi. Et puis il y en a d'autres qui vont préférer en fait ce silence, On est dans un espace où on a... Donc moi, c'est un moulin, la maison là où on est. On a l'eau qui passe sous la maison. Et on est bordé d'eau, tout le terrain est bordé d'eau. Et donc ça peut être aussi, je pars à l'extérieur si le temps le permet. En fin de compte, ça y est, j'ai eu les consignes de Aude et hop, je m'en vais. Et donc on peut être entouré de nature, on peut... Voilà, après si les conditions météorologiques le prêtent. Hein,
Pour vous, c'est quoi les conditions idéales ?
Eh bien, c'est la petite flamme qu'on a dans son cœur. Pour moi, la condition idéale, c'est ça. C'est qu'on est animé par quelque chose, par une envie. Et c'est uniquement ça, les conditions. Il peut pleuvoir, on peut... Moi, je me vois parfois dans ma voiture, être en train de peindre. Donc, il peut pleuvoir des cordes, c'est tout OK. Donc, c'est pas la météo extérieure, c'est plutôt la météo intérieure. Moi, j'ai beaucoup plus de mal à dessiner quand je suis triste. Par contre, je peux... une fois que j'ai dépassé cette phase de tristesse, l'émotion, en fin de compte, je peux me servir, en fin de compte, de cet état de tristesse pour aller délivrer quelque chose, un message dans mes tableaux. Actuellement, je dessine beaucoup, enfin, je peins à l'huile quelque chose de l'ordre du lien à l'autre, du lien à soi. Et je me mets comme contrainte, en fin de compte, qu'il y ait une main qui sort du tableau une main qui est là, donc elle peut se cacher dans un paysage ou elle peut carrément sortir de l'eau. Voilà, j'aime, en ce moment, je suis vraiment dans cette recherche graphique-là, mais elle part déjà, en fait, de mon intérieur à moi.
Qu'est-ce qu'elle symbolise, cette main, pour vous ?
Alors déjà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, les mains. Et ensuite, la main, ben, en fait, elle est quand même en lien à quelle main je te tends, en fait. Hein. Et donc, c'est pour moi le lien ou le liant de chacun de nous. Voilà, et souvent, en fait, mes tableaux commencent par moi. Ils sont presque que pour moi. Ils parlent de moi, de mon état d'esprit, de mon état familial, de mon état psychologique, émotionnel, tout ce qu'on veut. Des fois physique aussi. Et puis à un moment donné, ben, le processus s'arrête. Je me dis que le tableau est fini. Et là, quand je le regarde, je vois souvent une dimension qui va au-delà de moi, en fait, qui est beaucoup plus grande que moi. Et là, d'un seul coup, je peux transposer. Et voilà.
À partir de quel moment vous vous dites, ça y est, ce tableau est terminé?
Oh, c'est compliqué. Je crois que c'est compliqué et c'est ce que rencontrent aussi mes élèves. Hein. Oui, mais quand est-ce que c'est terminé? Hier, j'étais très protocolaire et je disais, tant qu'il n'y a pas assez de lumière, que le volume ne se voit pas, que machin, on n'a pas fini. Il y avait un élève qui me disait, oui, Aude, c'est pas fini. Je sais plus, il y avait une publicité aussi qui les rappelait à ça. Ils disaient, bah, Aude, c'est ça. Et puis, en fin de compte, non, aujourd'hui, c'est chacun, l'art est tellement subjectif. Et c'est chacun, en fait, sait quand ce sera la fin. Donc c'est toujours compliqué, des fois on a été trop loin, des fois... Et parfois c'est l'autre en fait qui va poser son regard aussi sur une toile non terminée et on va poser quelques questions et là d'un seul coup il y a une alchimie qui se passe et puis des fois ça suffit en fait pour dire « Ok, je ne retouche pas mon fond, il est fini ». Donc c'est très aléatoire et c'est très compliqué cette question.
Comment vous qualifiez un peu votre style ou vos styles? Parce que je suis allée faire un petit tour sur le site et pour moi, c'est hyper coloré, hyper... Oui. Enfin, il y a de l'énergie, il y a de la douceur. Voilà. Et j'ai l'impression que c'est un...
Je crois que c'est moi, en fait.
Ouais, hein. C'est vous. Hein.
C'est moi, je suis très colorée. J'aime beaucoup les couleurs vives. Donc, ma palette graphique, on va dire qu'elles sont des couleurs primaires, les secondaires et les tertiaires, mais j'ai très peu de couleurs neutres. Et puis, la lumière... Je crois que ça peut me caractériser beaucoup.
Je voudrais voler le bleu marine, tout l'or du soleil quand il brille. Les gouttes d'eau d'un ciel qui pleure, parce qu'il lui manque les couleurs. Être la main d'un peintre, être la soie noire d'un pinceau que l'on trempe dans un verre d'eau, mélanger le rouge et le jaune pour imaginer qu'il fait chaud. Être la main d'un peintre, je voudrais dessiner la douleur avec amour pour pas qu'elle pleure, effacer les drames et la haine d'un coup d'œil, éclaircir le ciel, attraper la main d'un enfant avant qu'il ne tombe par terre, affamé, assoiffé tellement, dessiner l'eau dans son désert, être la main d'un pas. Le blanc, être le noir, le brun du sud, le blond du nord, le vert qui suppose l'espoir, la lune grise, le soleil d'or, être la main d'un peintre, devenir les ailes d'un oiseau et pouvoir approcher l'immense, prendre à la nuit quelques étoiles pour cicatriser la souffrance. Être l'œil pour imaginer avec le cœur mais sans toucher, le plus petit et le plus grand, dire tout simplement sans parler. Être la main d'un peintre, oh, oh. Être le silence et le bruit, l'absence et le bonheur aussi, le souffle fragile d'une vie, la tendresse et parfois le cri.
Il y a de la douceur aussi, parce que dans les aquarelles, c'est plus, enfin, il y a un côté plus doux, de par mm-hmm. l'aquarelle aussi.
Oui, mais même aussi, je veux dire, dans la douceur, moi, je vois quand je fais des huiles, j'aime beaucoup ce rapport. En fait, mes huiles sont très lisses, très plates, très peu de matière, en fin de compte. Et moi, ce que j'aime, c'est cette douceur avec ce pinceau, de passer d'une couleur à l'autre pour pouvoir avoir d'autres nuances, en fin de compte. Et ça, c'est, je pense que c'est ma douceur interne qui vient s'exprimer en fait sur la toile. Et donc oui, moi je trouve effectivement aussi qu'il y a beaucoup de douceur dans le résultat aussi des réalisations, qu'elles soient à l'huile. Moi personnellement, je suis peu dans la matière, dans les effets de matière, etc. Qui donnent du relief, voilà ce que je vais dire. Par contre après... j'explore des tonnes de champs. J'ai fait à la maison sur le parquet une fleur de vie avec de la peinture à la farine. Donc voilà, dans l'idée de l'expérience, dans l'idée, mais toujours dans quelque chose d'assez lisse en fin de compte. Hein. Je suis c'est marrant le mot lisse,
oui.
Il revient. Donc voilà, et puis ensuite, je pense avoir quand même, hormis ça, en fin de compte, beaucoup de mal à me qualifier dans un processus type, à part dire que c'est l'expérience, la couleur, la lumière, qui sont trois piliers qui sont forts chez moi. Après, je me donne vraiment un champ des possibles de réaliser, même des fois des sculptures, des choses comme ça, parce qu'en fait, le challenge me plaît, en fait. Du fait d'avoir des parents qui ont été assez réticents d'un métier qui... Enfin, vivre de son art, en fin de compte, hein, être artiste et vivre de son art, c'était tellement compliqué que je crois que mon perfectionnisme est rentré, en fait, chez moi très vite, parce qu'il fallait que je prouve, en fait, au monde entier que j'étais artiste, que je savais réaliser, que je savais retranscrire et dans des idées de perfection.
Et aujourd'hui, vous avez trouvé plutôt un apaisement là-dessus.
Oh oui, complètement.
Et justement, et vos filles, vous avez deux filles, et est-ce qu'elles, elles perçoivent ça? Est-ce que vous leur transmettez ça?
Mes deux filles sont uniques et en même temps je crois que moi j'ai mon aînée en fait qui est rentrée au conservatoire de danse à Paris à l'âge de 14 ans. Elle a fait de la danse contemporaine pendant 4 ans, un cycle complet, et puis elle est passée en modern jazz. Elle a eu son baccalauréat l'année dernière et elle a encore un an en fait au conservatoire régional de Paris. Et donc elle, voilà, c'était la danse depuis toute petite. Elle a essayé le piano, elle a essayé plein de choses. Et puis elle était trop mimi toute petite. Elle disait, tu sais maman, parce qu'elle excellait aussi au piano. Et elle disait, tu sais maman, je prends beaucoup plus de plaisir à la danse. Donc je crois que je vais arrêter le piano. Et donc l'idée c'était ça, c'était de pouvoir faire découvrir, d'amener en fait un terrain favorable en fin de compte. Mais je crois que mon aîné fera prof de danse ou chorégraphe en fin de compte. Donc oui, elle aura un métier forcément artistique. La deuxième est beaucoup plus... elle est beaucoup dans la danse. Ça a été beaucoup de la danse classique, elle, pour elle. Et en même temps, le hip-hop. Et donc cette année, il y a hip-hop et puis danse contemporaine qui revient sur la table. Et le théâtre. Donc elle a fait aussi un stage de comédie musicale. Donc oui, je pense qu'on génère, le papa et moi, ce terreau, en fin de compte, de pouvoir s'exprimer. Et en fait, après, elles feront ce qu'elles veulent. Hein.
Oui, voilà. C'est elles qui choisiront leur voix.
Oui. On ne sera pas les parents qu'ont été les miens, en fin de compte.
après, moi, ce que j'entends beaucoup de parents aussi, c'est quand on vient s'installer à la campagne, c'est moins facile d'avoir des activités, je dirais, professionnelles, artistiques, à haut niveau, comme la danse professionnelle ou... Comment vous allez le gérer, ça?
Bah déjà, je le gère parce que ma grande est restée sur Paris. Donc, elle est restée avec son papa. Et donc, pour ne pas casser la fratrie, les deux filles sont restées sur Paris. Donc, c'est déjà quelque chose qui est déjà là. Maintenant, je vois quand même aussi que dans le Lot, il y a énormément de manifestations dans de nombreux domaines d'activité. Et du coup, ça me donne confiance. Je pense que mes filles ne sont pas liées à un endroit, en fin de compte, mais de parcourir le monde, en fait, et de vivre de leur art à leur manière.
Et de prendre leur envol, du coup.
Et de prendre leur envol. Quelque chose que tout le monde a fait très vite, en fait. Par chez nous.
Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup abordé vous et qui vous êtes. Pour revenir un petit peu au cours, vous donnez des cours et on peut s'y inscrire.
Oui. J'ouvre mon atelier d'artiste, donc mon univers, l'endroit où moi je crée. Donc ça peut être aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, en fonction de la météo ou des besoins de chacun. Et j'ouvre donc mon atelier le mardi et le mercredi de la semaine. Et je propose un accompagnement personnalisé, jusqu'à 6 personnes par cours, sur un cours qui dure 2 heures. Et donc, du coup, je propose des cours pour, par exemple, des enfants de primaire ou du collège. Je dirais que une séance par mois me paraît bien, mais à chacun.
Ouais,
à chacun.
Plus s'il y a affinité.
Plus s'il y a affinité et même moins si besoin aussi. Ma séance, elle est de 35 euros l'heure et demie pour les plus jeunes avec le matériel fourni. Et donc, c'est un accompagnement, une exploration, faire l'expérience de quelque chose avec moi. Et donc, là, pour eux, j'ai... un thème, on va dire, avec un médium qui va être présent. Et ensuite, ils dessinent ce qu'ils veulent. Je reste malgré tout ouverte aux besoins internes de chacun, en fin de compte. Donc ça, ce sera pour les primaires et les collégiens. Après, les ados, je trouve que c'est différent. Il y a besoin d'une autre approche. Donc moi, je les considère comme des adultes, au final. Tous, hein, de plus petits à plus grands en fin de compte, mais donc les ados pour moi ils sont bienvenus aussi avec des adultes et là en fin de compte il y a des ados qui parfois ont une fibre artistique vraiment très 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 déployée et là avec moi on va aller peut-être créer un book pour présenter pour des écoles, on va aller rencontrer un chemin pendant cette année. Et là, c'est pareil, en fin de compte. Soit c'est des rendez-vous hebdomadaires. Il y a des gens qui me demandent plus, en fin de compte, hein, qu'une fois par semaine, pour justement aller plus loin, explorer beaucoup plus. Je dirais que je suis un peu une technicienne de chaque technique que moi, j'explore ou que j'ai déjà expérimenté. Et donc, du coup, je les invite à, mais tout en gardant un fil conducteur de...
Vous canalisez un petit peu tout ça.
Voilà, de qui est qui et qui fait quoi. Mmh. Et du coup, je vais proposer différents forfaits. Des forfaits à l'année qui peuvent être de 30 séances sur l'année. Donc, c'est hors vacances scolaires. C'est une fois par semaine, 2 heures. Et puis, ce forfait, il est à 450 euros à l'année. Voilà, et après je peux avoir des forfaits qui sont en dessous, genre peut-être que 15 séances, parce qu'il y a aussi beaucoup beaucoup de retraités en fin de compte qui aiment prendre le temps et qui se libèrent aussi, qui s'épanouissent, qui prennent beaucoup de plaisir à faire une activité comme ça. Et donc, du coup, je vais les accompagner. Alors oui, c'est pas pour faire exposer dans des grandes galeries et des choses comme ça, ils ont bien conscience, mais juste de s'amuser. Et encore, à la fin de l'année, moi, je peux faire des petites expositions de leur travail, mais chut.
En tout cas, si on veut se rapprocher de vous, donc vous êtes à Téminette, vous avez un site internet, odeolivier.com.
Oui.
Et puis un mail également.
Mm-hmm. Oui, oui.
C'est plus pratique que par mail.
En fait, moi, je donne toutes les façons et à chacun de prendre contact avec moi, avec ce avec quoi ils se sentent le plus à l'aise. Donc, j'ai des gens qui me contactent avec les mails, d'autres par téléphone. Donc, c'est tout OK pour moi.
D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Aude.
Eh bien, merci beaucoup. Je suis ravie.
À très vite, alors.
À très vite.
Au revoir.
Au revoir.
La peinture en langue huile, c'est bien difficile en huile, mais c'est bien plus beau, dali daladi adadi, que la peinture à l'eau. Ah, à l'eau, ah, rapetit péta petit péto, rapetit péta petit péto, carabide, carabo, rien n'est plus beau que la retraite au flambeau, sauf peut-être ma cousine Berthe qui s'est fait faire une défrisable, elle est admirable, on en mangerait. Un tout petit peu, tout petit peu, tout petit peu. C'est un jeu face à Hawaïl. On dit de verre en Hawaïl. Et puis l'on termine Dali, daladi, adadi, par plaisanterie fine. À l'eau de Sels, rapetit péta, petit péto, rap, petit péta, petit petit péto. Carabide, carabot, rien n'est plus beau que la retraite au flambeau. Sauf peut-être ma cousine Berthe qui s'est fait faire une défrisable. Elle est admirable, on en mangerait un tout petit peu, tout petit peu, tout petit peu. Les automobiles dans les rues des Fawaïles. C'est moins rigolo. Dali, dala, di, adadi, clé, pédalo, allo. Aloha, rap, petit péta, petit petit péto. Rap, petit péta, petit petit péto. Carabide, carabot, rien n'est plus beau que la retraite au flambeau. Sauf peut-être ma cousine Berthe qui s'est fait faire une défrisable et est admirable. On en mangerait un tout petit peu, tout petit peu, tout petit peu. Faut pas se faire de bawaïle, c'est bien inutawaïle. Et ça rend morose, dali dala di adadi, vaut mieux se faire autre chose. Aloha, rap petit péta, petit petit péto. Rap petit péta, petit petit péto. Carabide, carabot, rien n'est plus beau que la retraite au flambeau. Sauf peut-être ma cousine Berthe qui s'est fait faire une défrisable et admirable. On en mangerait un tout petit peu, tout petit petit peu. 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 En l'envoyant le...